Voilà, je vous parle ça. Oui, ça va, ça va bien. Alors, la caméra passe de l'autre côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded,
sir. Aggredisci.
Passata, tu che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Menose, battifisso. Papa, battifisso.
Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct à midi 10 sur fréquence 7. Bonsoir à ceux qui nous écouteront en rediffusion à 17h10 toujours sur fréquence 7. Et salut à tous ceux qui nous écouteront en réécoute. Voilà, c'est Cinémascope, l'émission des cinéphiles pour les cinéphiles. Au programme cette semaine, et pour nous parler des films, bien, Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Olivier, bonjour à
Mathieu
toutes et tous.
Mathieu de Rosière.
Bonjour Olivier, bonjour Cathy.
Et Sylvain, sans qui nous ne sommes rien.
Bonjour.
Bonjour Sylvain, votre serviteur Olivier. Au programme, donc, je me reprends. Nouvelle Vague, le film sur, évidemment, À bout de souffle. Un film d'animation dont je me suis emparé pour ma petite rubrique jeune public, il s'agit de Mary Hennings. Nous parlerons naturellement, nous laisserons un maximum de place aux rencontres des cinémas Cévenol qui se déroulent au cinéma Le Foyer à Rosières. 16 films, 11 avant-premières, ça vaut le détour, et nous dirons peut-être sûrement un mot de Météore. Un nouveau film sur l'adolescence et les problématiques sociales, ça faisait longtemps.
Oui, mais il est différent celui-là.
Ah, celui-là est différent. Voilà, à cause de Victor Kirchner.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Bon, alors voilà. Eh bien, une très belle entrée en matière cinématographique, naturellement, avec le premier film dont il est question ici, aujourd'hui, Nouvelle Vague.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc. Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Aujourd'hui, tout le monde adore la Nouvelle Vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
On n'aura jamais Gene Seberg.
I never even said that I'd do the picture.
Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne, hein.
Voilà, les fiches du cinéma sont absolument enthousiastes autour de ce film Nouvelle Vague. Un peu, disent les fiches du cinéma, comme le tournage d'un making-of, si le making-of avait existé à l'époque d'À bout de souffle. Et j'ai bien aimé aussi une remarque des fiches du cinéma, le plaisir de jouer mis en avant, et pour ne pas oublier que le cinéma reste un jeu. C'est ça, Cathy,
ouais,
que
ouais,
tu as vu.
Oui, tout à fait. Écoutez, moi, c'est le film le plus enthousiasmant de l'année que j'ai pu voir, honnêtement.
Oui, mais t'en vois pas beaucoup des films.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça doit être pour ça. Non mais plus sérieusement, je l'ai découvert à Cannes cette année, puisqu'il était en compétition au Festival de Cannes. Et honnêtement, je n'avais absolument rien lu sur le film. Je connaissais le réalisateur, hein, Richard Linklater, qui est un cinéaste américain. Et je me suis dit, mais comment un cinéaste américain est allé se plonger dans l'époque de la Nouvelle Vague.
On est en 1959 pour le tournage. Oui.
Je me suis dit, ça va être un truc à la sauce américaine, avec des acteurs américains qui vont jouer des Français. Bon, voilà, enfin vraiment, je pars mal. Et là, énorme surprise, parce que je découvre que le film est français, avec des acteurs français qu'on ne connaît absolument pas, qui interprètent des rôles de cinéastes hyper connus, de Godard à Truffaut, à Chabrol, voilà, la nouvelle vague, la naissance de la nouvelle vague, donc ce renouveau du cinéma français avec la création d'À bout de souffle, avec un Godard, en tout cas un acteur donc, qui s'appelle Guillaume Marbet, qui incarne Jean-Luc Godard, mais absolument magnifiquement, qui est très drôle, qui m'a fait carrément aimer ce personnage de Godard. Parce que...
Il faut le faire.
Ah bah ouais, clairement, parce que pour moi, Godard, c'est quand même bon, un mec un peu mystérieux, un peu intouchable, un peu désagréable, voire... Désagréable, oui.
J'allais dire désagréable.
Alors que là, on est dans un process de création d'un film qu'il écrit, dont les pages s'écrivent au fur et à mesure. On découvre aussi ce qu'est la production à l'époque. Alors, la Nouvelle Vague, c'est on sort des studios de cinéma, mais aussi on sort de la façon de produire. Enfin, tout est nouveau dans cette période-là. Et on plonge complètement dans cette nouveauté réjouissante, drôle, hyper bien réalisée. Franchement, Nouvelle Vague, c'est un vrai bonheur. Hein.
Oui, oui. Sur la bande-annonce, on peut constater la qualité de la photographie, par exemple.
Mais oui, il y a un noir et blanc aussi superbe. Et alors, c'est quand même assez incroyable de se dire que pour moi, voilà, un des films les plus réjouissants de l'année, alors qu'on revient sur une période quand même très éloignée de nous, où le cinéma n'était pas... Enfin, voilà, était pas... Il y avait longtemps qu'il était né, le cinéma, mais il y avait ce renouveau, cette énergie, et on la sent à travers tous ces gens. Et je pense que c'est ce qui fait que maintenant, c'est encore plus réjouissant de se replonger dans cette époque qui était elle-même réjouissante pour le cinéma, quoi, en fait.
Ouais, complètement.
C'est une sorte de mise en abîme, en fait. Ouais.
J'aime pas trop les hyperboles, enfin, etc. Mais c'est vrai qu'avec À bout de souffle, on est quand même un petit peu dans la légende du cinéma, quoi. Il y a quelque chose d'un petit peu, c'est plus qu'historique. On touche presque à la fable sur l'histoire du cinéma. Et effectivement, moi, ça me fait penser au parallèle littéraire qu'on fait souvent avec Cathy, le parallèle littéraire. Avec par exemple le nouveau roman et des gens comme Michel Simon Butor, Claude Simon pardon, Michel Butor, etc., Pérec, enfin, etc. On a effectivement cette plongée dans un passé très très réjouissant par les temps qui courent. Nous allons...
Si je peux juste ajouter, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui peut gêner, mais moi je trouve que c'est très très bien de l'avoir fait comme ça, c'est que les personnes que l'on connaît de nom, bon, évidemment, quand on est un peu plus cinéphile, peut-être, mais elles nous sont présentées dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu didactique comme ça, qui pourrait gêner, mais c'est hyper important. Enfin, parce qu'ils ont aussi quand même cherché, enfin, dans le casting, des gens qui sont assez ressemblants, mais qui sont très talentueux aussi dans l'interprétation. Donc en fait, on se dit, ah tiens, lui, ça doit correspondre à Belmondo, ça doit correspondre à Truffaut, machin. Mais ça nous est confirmé à travers une petite mise en scène. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir fait comme ça.
Des acteurs plus connus auraient pu faire un peu écran entre...
Ah bah complètement. Mais là, c'est génial de l'avoir pensé comme ça, quoi.
Voilà. Vraiment. Je voulais que ce Cinémascope débute par un hommage à toutes les formes de cinéma, donc la Nouvelle Vague, ici avec Nouvelle Vague, et puis aussi le cinéma d'animation. Je suis très attaché donc au cinéma jeune public, et là on a un mets de choix, j'ai l'impression, avec Mary Henning.
Il est joli celui-là, c'est quoi ?
Écoute Henri, la vente de fossiles c'est une affaire de grand, c'est clair, mais où avez-vous déniché de tels trésors ?
C'est Marie qui les trouve, dans les rochers, là, vers les falaises.
5 shillings. Waouh.
Voilà. Boum.
Le monde a donc été créé en 6 jours et notre Terre est maintenant âgée de 6000 ans.
Mais certains fossiles...
Cela suffit.
Qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à rembourser l'argent ?
On devra vendre la maison et déménager en ville.
Je crois que j'ai un plan.
Oui, un film d'animation que je me suis plu à découvrir mercredi après-midi au milieu d'un jeune public apparemment très intéressé. Mary Henning, le film d'animation, raconte l'histoire, une partie de l'histoire de Mary Henning, la scientifique anglaise du début du 19e siècle. Elle est née en 1799 et est morte en 1847. Elle est issue d'une famille pauvre et passionnée, et rendue passionnée par son père, par les fossiles qu'elle recherche dans les falaises calcaires du bord de mer dans le sud de l'Angleterre où elle habite. Pour situer la personne, elle a des dates qui correspondent en gros aux dates de Darwin, hein, qui est né en 1809 et mort en 1882. C'est les prémices de la découverte que les espèces animales n'ont pas été toutes créées en même temps et ne subsistent pas toutes toujours, hein, comme le raconte la Bible dans la Genèse, mais qu'au contraire, les espèces ont des origines différenciées et subissent, entre guillemets, des évolutions distinctes. Cette jeune fille va découvrir effectivement le premier plésiosaure, hein, une sorte de créature tout à fait improbable pour les scientifiques de l'époque. Ils ne savent pas à quelle espèce la rattacher. Est-ce que c'est un crocodile? Est-ce que c'est un poisson, etc. Elle va aussi découvrir beaucoup d'ichthyosaures, dont le nom justement souligne qu'on ne sait pas si ce sont des poissons ou des lézards. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que la très grande simplicité du graphisme, de la narration, la très grande simplicité des personnages ne nous empêchait pas de pénétrer la subtilité de ce qui se passe, tant au point de vue psychologique, puisque on comprend bien les problématiques psychologiques et sociales, d'ailleurs, de la famille de Mary Henning et des gens qui l'entourent dans son village natal. Et c'est assez rare pour être souligné, on a un très grand respect de l'histoire des sciences, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de simplification outrancière, il n'y a pas de caricature véritablement de la position du révérend qui est évidemment conservatrice, réactionnaire et obsolète, mais elle n'est pas plus que ça ridiculisée, et au contraire on montre comment petit à petit les signes que les choses se sont passées au niveau de la vie sur Terre différemment, les signes apparaissent et doivent être interprétés petit à petit par des scientifiques qui émergent d'un petit peu partout. On a une petite note sur le rôle des femmes dans la science, mais encore une fois, dit simplement et sans que ça tourne au manifeste woke ou féministe outrancier du tout, vraiment pas du tout. Et j'ai bien aimé aussi le parallèle qui est fait entre l'apprentissage de ce qu'a été l'évolution des espèces avec l'apprentissage de la natation. C'est-à-dire nager, à l'époque, c'est réservé vraiment à quelques-uns, et de même que Mary Henning cherche des fossiles, elle a une amie d'école qui nage et qui est une des seules dans le bled à nager, même le marin de service ne sait pas nager. Or, il y a un fossile important qui tombe à l'eau, il faut aller le rechercher, et pour ça, il faut savoir nager, il faut savoir plonger, et Mary Henning va apprendre aussi à nager. Ce qui fait de l'apprentissage de la natation comme une espèce de figure de toutes les évolutions que l'on voit être décrites dans ce film. Donc, un film très riche, qui dure à peine plus d'une heure, et qui comporte tout ça sans qu'on soit du tout surchargé, pas plus par le récit que par le dessin, l'animation. J'ai demandé à une petite fille ce qu'elle avait aimé dans le film, elle m'a dit tout. Donc effectivement, mais je m'attendais à pouvoir proposer à Cinémascope un petit avis plus précis sur ce qui avait éventuellement plus marqué la jeune spectatrice, mais en fait non, elle a tout aimé, en fait c'est comme moi, quoi. Voilà, on va laisser la place qu'il faut maintenant aux rencontres des cinémas Cévenol, au foyer à Rosières. Mathieu, qui donc du cinéma de Rosières, va nous en dire plus. Mais pour se mettre en jambes, peut-être allons-nous écouter la bande-annonce de Pagel 2, Jeunesse.
On était des mystiques, hein. Il nous a critiqués. Ma jupe était trop courte. Envoyez mes genoux.
Faut pas nous vouloir être en liberté, quoi.
C'est pas évident, lui, de parler pour toi. Là, il emmène pas au dépôt. Ça veut dire quoi?
Voilà les rencontres du cinéma Cévenol à Rosières pour une cinquième édition, je crois.
Tout à fait. Cinquième édition, toujours basée sur le maximum d'avant-premières. Nous, ce qui est important pour nous à Rosières, c'est d'arriver à mêler des films locaux avec des rencontres, des débats, des réalisateurs qui sont présents. Et bien entendu, des avant-premières de grands films que le public pourra apprécier aussi plus tard.
Mais pas parmi les films pas spécialement locaux, mais qui paraissent importants dans la programmation, je vois Semer et Récolter.
Tout à fait. Semer et Récolter, très beau film documentaire de Éric Leroc qui, en fait, parle tout simplement de ces agriculteurs qui au quotidien travaillent pour nous nourrir et du coup des difficultés qu'ils rencontrent. On est sur des champs, du courage, beaucoup d'humanité. De l'espoir et des doutes, bien entendu.
Trois familles dans le Perche.
Dans le Gers. Non, dans le Perche.
Dans le Perche. Dans le Perche, oui, c'est le Perche.
En tout cas, oui, c'est ça.
Ouais.
On les suit, on est dans leur quotidien et on vit avec eux en fait tout au long du film.
Et donc,
très belles images.
Oui, donc 16 films ai-je noté, dont 11 avant-premières. Il y a vraiment un menu copieux. Et parmi ces films, Pagel. Alors, Pagel 2, c'est le deuxième film d'une série de 4.
Tout à fait. En fait, c'est une série documentaire en 4 volets. Pagel 1 est déjà sorti il y a quelques temps. Il s'appelait Pagel 1 Montagne. Là, on est sur Pagel 2 Jeunesse. Donc, en fait, c'est plutôt un voyage intime dans l'Ardèche qu'on ne connaît pas forcément.
C'est la bande-annonce que nous venons d'entendre, donc avec les voix tout à fait reconnaissables.
Tout à fait. En fait, Pagel, c'est le mot occitan pour dire les gens d'en haut. Nous, on peut aussi dire les paysans, tout simplement. Et en fait, on est sur des documentaires qui sont là pour raconter les voix d'un territoire, en fait, tout simplement. On écoute les habitants, leur mémoire. Tissé entre la montagne, l'exode, la jeunesse, la transmission. C'est tous ces sujets qui sont dans Pagel. Le premier volet vraiment était là pour poser des fondations. Ça nous plongeait dans des paysages rudes, des plateaux froids, des récits de ceux qui vivent là-haut ou qui ont vécu là-haut.
Oui, ça nous évoque la burle, ça nous
Exactement.
Évoque des choses.
Et d'ailleurs, les images qui contrastent, donc on est sur un documentaire qui fait des interviews et en même temps des images de nature. Donc on est dans ce froid, dans cette burle. Ça, c'est Pagel 1. Et ensuite, Pagel 2, donc on diffuse les deux, hein, Pagel 1 et Pagel 2 à la suite, avec la présence du réalisateur Valentin Chiennac. Et du coup, le nouveau chapitre, on est plutôt sur la jeunesse. On s'invite dans l'intimité de ces paysans, dans les récits de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes, notamment des souvenirs d'école, des souvenirs de pension, des souvenirs de messe, et du coup tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les répressions des sœurs, presque violentes, traumatisantes pour certains.
Donc on n'est pas exactement dans l'atmosphère parisienne d'À bout de souffle.
Pas du tout.
Voilà.
Pas du tout. On est plutôt sur l'authenticité de territoires un peu reculés qui ont vécu des choses assez compliquées dans leur jeunesse. On parle d'il y a 60, 70 ans.
C'est ça,
oui. Une époque rude, hein, où l'enseignement aussi était un peu violent. Mais ce qui transpire finalement, c'est dans ces témoignages, c'est le respect quand même qu'ils avaient entre eux, la solidarité qui se tissait entre les habitants aussi. C'est ponctué d'images magnifiques toujours de ces paysages incroyables. Là, on est plutôt parti sur l'automne qui vient ponctuer du coup avec ses couleurs chaleureuses, les champignons, la poésie du calme après l'été. Ils en parlent beaucoup de l'été, enfin du calme après l'été. Voilà, on est plutôt sur des paysages qui réchauffent et il y a plein de séquences où finalement on s'amuse à rire de ce qu'ils disent puisque ils évoquent des souvenirs de mariage, de couple, de vie sexuelle, de liberté sexuelle aussi, à l'époque, très peu évoquée à l'époque. Et donc, du coup, y en a même un qui dit « l'abri des lâchés, mon pauvre ami », c'est vraiment symptomatique de leur regard qu'ils ont de la société d'aujourd'hui aussi.
Oui.
Donc c'est très intéressant pour ça aussi.
Quel regard, globalement ? Quel regard ils ont, ces gens qui ont eu leur jeunesse il y a 60 ans, mettons, en gros ?
Ben, en fait, ils observent la société d'aujourd'hui en se disant « Nous, on a vécu autrement, donc on ne peut pas penser comme ça, mais... » la liberté quand même c'est quand même positif, peut-être un peu trop excessif certaines fois aujourd'hui, mais ils voient ça quand même d'un œil plutôt bienveillant, en se disant que de temps en temps ça manque un peu de rigueur, mais que globalement c'est beaucoup mieux que ça soit comme ça que comme c'était avant, même si dans leur discours ils sont pas dans la tristesse, hein, ils sont plutôt dans on l'a vécu comme ça, ça
ni
s'est fait.
Ni dans la nostalgie, quoi.
Non,
pas du tout.
Non, ils regardent devant. Et c'est ça qui est incroyable quand on les écoute. Hein. Ils parlent toujours avec sourire. Même quand ils parlent de choses dures comme les messes ou la répression qu'ils pouvaient subir, c'est toujours avec un petit sourire ou avec un ton léger, c'est pas un ton grave.
Ici, à Fréquence 7, on parle évidemment beaucoup des questions de territoire, puisque cette radio est une radio de territoire, naturellement. On a beaucoup évoqué ces derniers temps l'écologie locale, l'écologie politique. On a même un philosophe, Jean-Marc Guitti, qui a pu venir parler d'écologie politique. Poétique. Et dans son dernier ouvrage, La Terre confisquée, il parle de la manière qu'a l'État centralisé, voire le gouvernement européen des affaires, d'aménager le territoire à coup de déviation. On constate une sorte de perte de sens à travers ce martyr du territoire parfois, et on a l'impression qu'à travers ces films on a peut-être des ressources pour redonner du sens aux choses.
Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas en voyant ce film. Déjà c'est Valentin Chenac qui est un jeune réalisateur, donc le fait que ce soit un jeune qui aille se connecter aux anciens, je trouve ça très intéressant d'avoir ce double regard. Et effectivement, quand on les écoute à travers ce film, l'évolution qu'amène la société, pour eux, c'est très lointain. Mmh. Ils restent persuadés que finalement, ce qu'ils ont vécu, c'était pas si mal, et que maintenant, il y a beaucoup de choses qui clochent, exactement.
Tout le monde se sera aperçu que pas mal de choses clochent, effectivement. En dehors donc de Semer et récolter et Pagel 2, oui. Est-ce que d'autres films, Mathieu, mériteraient d'être mis un petit peu en avant là ?
Ah bah déjà, ce soir, ça commence 20h30 avec le film d'ouverture « Ma frère », qui est une comédie dramatique tournée en grande majorité dans la Drôme. Donc on est sur un film... de jeunesse, plus léger, mais qui va être très sympa, je pense. Dans le week-end, donc, il y aura pour tous les goûts de l'animation aussi, avec, avec La vie de château, Mon enfance à Versailles.
Ah oui, c'est super. J'ai vu, malheureusement, je n'ai vu que la bande-annonce, mais ça a l'air fantastique.
Voilà, ouais, donc ouais. Ça, c'est samedi. Ouais. Il y aura aussi sur le harcèlement scolaire avec le film T'inquiète.
Ouais.
Et ensuite, dimanche, on peut citer Marcel et Monsieur Pagnol aussi en animation. Ouais. Le film culte Retour vers le futur, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir en vrai au cinéma, c'est le 40e anniversaire. Moi, je suis un enfant des années 80, donc j'ai grandi avec Retour vers le futur, donc ça me fait chaud au cœur de pouvoir le voir au cinéma. Et on terminera avec le film de clôture, Les enfants vont bien, avec Camille Cotin. Voilà, donc un beau programme, riche, varié, pour tous les goûts, beaucoup de films en 3 jours.
Oui, et alors une chose qu'on apprécie aussi, puisque la vocation de Cinémascope, c'est quand même d'indiquer, mais aussi de mettre en valeur, en avant, tout ce qui passe sur les écrans ardéchois. Vous faites allusion à Retour vers le futur, qui est un petit peu qui habite votre imaginaire premier, je dirais. Il y a une autre opération, bon ben connue, hein, dans le coin, qui sont les escales patrimoine. Là aussi, une extraordinaire occasion de voir des films du patrimoine. On a pu voir les années passées. Moi, j'ai souvenir par exemple de voir Bulit sur grand écran. Bon, c'est quand même quelque chose. On parle souvent un petit peu vaguement d'expériences de cinéma, mais ce sont vraiment des expériences de cinéma que de voir ces films du patrimoine dans les conditions normales de projection cinématographique. Et donc les escales patrimoine, ça recommence la programmation donc 2025-2026 avec une première projection, celle de Moulin Rouge, dans une copie un peu restaurée, c'est ça ?
Oui, 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 tout à fait. Ce sont toujours des copies numériques, donc les films sont restaurés et voilà, elles sortent en copie numérique.
Donc c'est passé hier, 9 octobre, mais il y a une suite.
Oui, il y a une suite. Juste, je précise que Escale Patrimoine est porté à la fois par le cinéma Les Navires et la Maison de l'Image. Et qu'effectivement, les séances du jeudi, comme hier soir, sont accompagnées. C'est-à-dire qu'on présente le film et il y a un petit échange à l'issue de la projection. Le film passe deux autres fois, le lundi et le mardi, historiquement. Et quoi dire ? Oui, hier, on a présenté la saison 2025-2026. Au départ, nous étions partis avec Christophe montrer des films cultes sur chaque continent. Essayer de trouver un film culte par continent. Et puis, finalement, comme on est dans des temps un petit peu moroses, on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas un peu l'amour en avant ? Bien sûr, l'amour, c'est pas que bien. Des fois, c'est un peu compliqué. Ça peut être même toxique. Mais du coup, on est allé vers une série de films qui parlent d'amour et qui, avec des genres très différents. Et pourquoi ne pas commencer la saison avec Moulin Rouge, qui est une espèce de tourbillon de couleurs, de musique, burlesque, drôle, émouvant, et avec une copie absolument magnifique, effectivement, à retrouver en scope sur l'écran du navire. C'était une superbe expérience hier de se replonger dans ce film. Et oui, Baz Luhrmann, c'est un peu sa patte. Hein. En tout cas, quand on va au cinéma voir un film de Baz Luhrmann, on en a, je pense, pour son argent, parce que il ne lésine pas sur les plans, sur enfin en tout cas tout ce qui accompagne un film. C'est vraiment peut-être too much hein, pour certains, voire kitsch pour d'autres. En tout cas, voilà, moi ça fonctionne aussi un peu comme Nouvelle Vague, pour les yeux, pour les oreilles, parce que ces reprises d'Elton John, enfin il y a une réadaptation musicale incroyable de chansons avec des medleys. C'est Nicole Kidman et Ewan McGregor qui interprètent, enfin tous les acteurs, actrices du film interprètent eux-mêmes toutes les chansons, toutes les reprises d'Elton John, de Police. Et j'en oublie. Non, franchement, c'est un feu d'artifice visuel et musical.
Oui. Donc, les Escales Patrimoine, donc, co-organisées par Le Navire et la Maison de l'Image. Je dis. Comme ça, pour que vous puissiez vous faire une idée, que oui, vous, exactement. Je crois que c'est exactement ça. Faire du teasing au maximum. En décembre, ça sera Casque d'or de Jacques Becker. En janvier, Lost in Translation de Sofia Coppola. Février, L'Aurore de Friedrich Wilhelm. Mars, Paris, Texas. Bon, pour moi, un film particulièrement important. Buñuel en avril avec Elle, Tourment. Je crois qu'effectivement, et puis alors la clôture, alors là c'est un sommet, c'est un feu d'artifice, pour moi un de mes films préférés, parce que ça n'a aucun intérêt que ça soit un de mes films préférés, mais bon, je suis obligé de le dire, Sur la route de Madison de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Meryl Streep dans une histoire d'amour absolument bouleversante, impossible de ne pas pleurer. Et je souligne qu'effectivement chaque film est présenté trois fois, le jeudi à 18h, 18h30, avec la présentation. Le lundi à 15h, donc c'est pour les amateurs de séances l'après-midi, c'est le cinéma l'après-midi, ça se défend. Et puis le mardi, c'est pour ceux qui sont plutôt des oiseaux de nuit, donc autour de 20h45. Trois programmations à trois horaires différents qui satisfont différentes façons d'aimer le cinéma. Voilà, on a largement le temps, oh là là, de parler d'un dernier film. Il s'agit des Météores.
L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir.
Quoi ?
Autre chose.
Arrête.
Une personne vous accuse du vol de son chat.
Mec, hey, qu'est-ce que tu fais ?
Dis-moi. Il est extrêmement moche, ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi.
Il y a un collet GPS en dessous
de... Jette-le par la fenêtre !
Attention !
T'as encore des poils là, regarde, sur ton blouson.
Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux, je suis blanc vénitien.
Vous comprenez la gravité des faits ? Vous pouvez partir en détention là, aujourd'hui, maintenant.
Mais non, moi non, je vais pas en prison.
Il veut pas aller en prison. Il y en a plusieurs comme ça qui veulent pas aller en prison, ou alors la tête haute. Donc Météor, c'est un film de, j'ai pas le prénom, Charuel, c'est ça?
Hubert
Charuel. Alors un film d'adolescent avec quelques problématiques sociales, puisqu'il y a un ado devenu plus âgé, Tony, qui apparemment réussit dans l'entreprise, et puis deux autres, Mika et Dan, qui sont moins dans la réussite sociale, eux.
Oui, tout à fait. On parlait du milieu paysan. Pour rappel, Hubert Charuel avait réalisé Petit Paysan il y a quelques années, qui avait été un film très remarqué par tout le monde, la critique et les spectatrices. Alors Météor, c'est un film, je dirais un peu hybride quand même, parce qu'il y a ce sujet que tu apprécies particulièrement au cinéma, l'adolescence.
Les 15-25 ans.
Les fameux 15-25.
L'improbable tranche.
Et il parle aussi, il va nous parler un peu écologie quand même, avec l'espèce de poubelle nucléaire dans laquelle les personnages principaux vont finir par travailler. Et la vraie révélation du film, c'est pas Paul Kircher que
j'ai appelé Victor tout à l'heure.
Oui, mais il a un frère qui fait aussi du cinéma, mais je sais plus son prénom, peut-être que c'est Victor. En tout cas, la vraie révélation de ce film, c'est plutôt Idir Azougli, qui interprète Daniel dans ce film. Et on va partir d'un film. Le début, franchement, est très très drôle. Ça met en place les personnages et il y a une scène absolument hilarante où ils se baladent en voiture suite à une soirée un peu où ils ont un peu picolé, un peu fumé, et ils vont voir un chat. Donc, je sais plus exactement la race du chat, mais enfin, qui est quand même un très très beau chat qu'on peut voir revendre très très cher. Et donc, ils partent avec ce chat, ils se font choper, bien sûr, et là il y a une scène complètement burlesque dans le commissariat où ils réfutent tout alors qu'on a des caméras, bon, enfin bref, on a tout qui prouve que c'est bien eux, mais bon, donc ça c'est très très drôle. Mais petit à petit le film va vers quelque chose de plus sensible, de plus émouvant, et la relation qu'ils ont eux deux, elle est à la fois, enfin elle est assez particulière, voire toxique. Et Et finalement, il y a une espèce de revirement à un moment très très intéressant, je trouve, sur la question de l'amitié, mais je peux pas spoiler, donc je crois qu'il faut quand même aller, enfin il faut pas quand même, il faut aller le voir, parce que c'est aussi ce nouveau cinéma qu'on aime, même si on est dans une réalité avec effectivement une France qui est moins représentée, avec les difficultés sociales derrière, qui pourrait comme ça se dire à notre époque, bon, on a déjà beaucoup beaucoup d'informations de ce genre, on voit bien que il y a plein de choses qui nous dérangent, et c'est peut-être aller au cinéma et être reconfronté à ce type d'histoire, ça peut être, on a peut-être un peu envie d'autre chose, quelque chose un peu plus magique comme Moulin Rouge par exemple. Mais pour autant, il y a vraiment beaucoup de cinéma dans ce film. Cette question d'amitié posée, elle est vraiment très intéressante. Et puis, il y a aussi ce que ça dénonce à travers l'histoire, sur la façon dont on peut utiliser les gens, comment on peut se retrouver à un moment dans la merde et comment on fait pour s'en sortir. Il y a la question de la maladie. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film. Mmh. Et il y a vraiment une originalité cinématographique, artistique, quoi, avec des choix de mise en scène et de direction d'acteurs très intéressants. Et par ailleurs, je trouve que c'est bien la première fois que Paul Kircher joue aussi bien dans un film.
À ce point-là. Alors,
exactement.
Donc, c'est ce que vous vouliez dire, Cathy, qu'il ne fallait pas considérer Météor comme le énième film sur l'adolescence et les problématiques sociales, mais qu'il y avait un petit différentiel.
Un petit truc en plus.
Un petit truc en plus pour évoquer encore un film fantastique du cinéma français qui n'en produit pas assez. Je ne voudrais pas que nous... Ironie. Je ne voudrais pas que nous nous quittions sans signaler le programme de la tournée. Dimanche, à Tuate, à 11h, pour le jeune public, c'est Timioche, à partir de 3 ans, un film donc assez court, 41 minutes, donc pour les petits. À Tuate, mardi 14, à 16h, ce sera le Répondeur, avec Denis Podalydès, un film de Fabienne Godet. Toujours à Tuate, mais à 20h30, et toujours le mardi 14 octobre, ce sera Valeur sentimentale de Joachim Trier. Un film, à mon sens, très intéressant. C'est une belle réflexion sur la filiation, sur la création artistique. Et puis enfin, à Beaumont, jeudi 16 octobre à 20h30, après une soupe qui, elle, à partir de 19h30, donc vous mangez la soupe, puis après vous allez au cinéma pour voir L'attachement de Karine Tardieu avec Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille et Vima La Ponce. Un très très beau film, très touchant, dont nous avions parlé ici à Cinémascope il y a plusieurs semaines. Eh bien, je crois que le moment est venu de nous quitter. Merci Mathieu d'être venu nous parler.
Avec grand plaisir.
Du cinéma Cévenol. En Cévennes. Et merci à Cathy Géry. Merci à Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.
Voilà.